Bon, bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Merci d'être présent pour le début de notre deuxième saison de conférences ici à Sarlat. Nous sommes toujours très, très heureux, très contents de pouvoir vous rencontrer, vous présenter notre envie de continuer avec ce travail. Vous nous avez donné déjà une merveilleuse occasion jusqu'au mois de juin l'année dernière de passer du temps avec vous à vous présenter la structure, le processus et la structure, la méthodologie du cours. On a fait une série de rencontres, de 7 rencontres, en prenant un petit peu du début à la fin des principes du cours. Qui sont maintenant, pour ceux qui s'y intéressent, enregistrés et téléchargés sur notre site. Donc, si vous avez envie de rattraper le travail qu'on a fait jusqu'à là, apparemment, les présentations sont bien, l'écoute se fait bien, l'enregistrement c'est bien fait. Donc, vous pouvez l'accéder sur le site, sur la page enregistrement, tout simplement. Et donc, nous débutons encore une autre saison, une saison jusqu'au mois de décembre, avec comme métaphore ou avec comme thème, en fait, le sujet pour ce soir, c'est-à-dire une porte magique, une porte remarquable, une porte qui ne se ferme pas, qui ne se fermera jamais. Donc, au début, en fait, c'était mon titre pour ce soir, c'était « La porte qui ne se ferme jamais ». Après, on a glissé sur un autre titre aussi, « Passeport vers un monde inconnu ». Parce que nous allons regarder cette porte comme le portail, comme une voie d'accès vers un endroit, peut-être pas totalement inconnu, mais certainement méconnu. La façon que nous allons en parler peut être complètement nouvelle, donc inconnue. Mais l'endroit, bien sûr, nous connaissons tous d'une façon ou d'une autre. Ça nous a touchés. Nous avons tous ressenti à un moment ou autre dans nos vies une autre chose, la présence d'une autre chose qui doit avoir plus à la réalité que les simples scènes qui traversent devant nos yeux tous les jours dans la rue. Donc, j'ai choisi cette thème parce que je veux que le parfum pour cette conférence soit la douceur, soit le progrès progressif vers notre objectif de cet endroit remarquable auquel le cours donne le nom de l'esprit juste. Et éventuellement, quand nous sommes entièrement dans l'esprit juste, le cours appelle ça le monde réel. À ce moment-là, nous sommes, selon le cours, vraiment dans la vision la plus juste qu'il peut avoir encore dans cette expérience physique, où notre vision est entièrement guérie de toute la fragmentation, de toute l'envie de continuer à fragmenter, et nous restons fermement maintenant dans la connaissance pure de la non-dualité, de l'unité parfaite de toute chose, qui est la vraie base, le vrai fondement de la réalité, même dans l'illusion de ce monde ici. Donc, je trouvais assez curieux le titre pour ce soir quand j'y pensais, parce que j'ai trouvé une sorte de paradoxe dedans. Un paradoxe qui va devenir un petit peu évident tout à l'heure. J'ai envie de vous montrer ça. Mais il suffit de dire pour l'instant que l'expérience que nous avons ici tous les jours, c'est de pousser les portes. Et de chercher d'autres portes à pousser, d'autres opportunités, d'autres expériences, d'autres peut-être opportunités de travailler dans un autre domaine, d'autres centres d'intérêt, d'autres relations, d'autres connaissances, d'autres lieux à vivre. Tout ça peut représenter dans un sens des portes pour nous. Néanmoins, nous avons une idée d'un autre genre de porte. Donc j'imagine que quand vous avez vu peut-être le titre pour ce soir, un passeport vers un monde inconnu ou la porte qui ne se ferme jamais, j'imagine que vous n'avez pas pensé à la porte pour aller visiter le Maroc ou la porte pour aller visiter voilà, les caves de Lascaux. C'est la porte avec un grand P, absolument. Mais la façon que nous menons la vie ici, c'est en poussant des multitudes de portes et en espérant que ces portes nous emmènent quelque chose, nous donnent quelque chose. Donc, nous allons explorer un petit peu cette tendance de continuer tous les jours à avoir une petite voix qui nous parle d'une porte avec un grand P, et pourtant, de l'autre côté, la façon que nous insistons presque tous les jours, pas forcément d'exiger que ce monde nous donne quelque chose, mais certainement de demander à ce que ce monde nous donne quelque chose, particulièrement riche, particulièrement satisfaisante. Nous poussons les petites portes. Les petites portes et la grande porte. Cette métaphore va nous aider à voir la juxtaposition entre nos aspirations la plus haute vers l'esprit pur, mais en même temps, nos tendances ou nos habitudes le plus mondaines, le plus banales, de continuer à pousser les plus petites portes. Grandes portes, petites portes. Pour nous mettre dans le bain de cette recherche, et aussi, puisque c'est le premier cours pour certains d'entre vous, c'est la première conférence sur le cours pour certains d'entre vous, j'ai pensé vous donner quelques extraits du livre. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans ma petite introduction, le langage est un petit peu compliqué, un petit peu travaillé. Donc je vous demande un peu de patience dans l'écoute. Mais j'ai pensé vous faire ça parce que ça va nous mettre un petit peu sur un voyage vers ces différentes portes. Donc ça va prendre juste quelques minutes pour que je vous donne tout ça, mais je pense que ça vaut la peine. Le cours nous parle déjà, le cours est écrit dans la première personne de Jésus qui nous parle, qui nous tutoie à chacun. Okay? Si je ne vous ai pas dit dans l'introduction, le cours a été la source de l'enseignement et Jésus. D'accord? Ce n'est pas le Jésus de la Bible dans le sens que la Bible nous donne un portrait d'un Jésus qui a souffert. Le Jésus d'un cours en miracle n'a pas souffert. Il parle en long et en large de cette malinterprétation malheureuse de sa crucifixion entre guillemets. Mais c'est juste pour vous dire, là, il va nous parler. Et aussi, j'ai peut-être négligé de vous dire pendant l'introduction que quand il adresse le Fils de Dieu, nous sommes tous le Fils de Dieu. Il n'y a qu'un Fils de Dieu, nous le sommes tous, différents aspects de cette entité ou de ensemble. Qui s'appelle aussi à différents moments, qu'on appelle aussi à différents moments la filialité. Donc ici, il parle de chacun entre nous, de nos frères, de chacun entre nous qui marche dans ce monde. C'est une leçon qui s'appelle « Les dons de Dieu me sont confiés ». Ici est la seule demeure qu'il pense connaître, parlant de chacun entre nous. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Sans le monde qu'il a fait, qu'il a fabriqué, il est un paria, sans demeure et apeuré. Ils ne se rend pas compte que c'est ici qu'il est certes apeuré et sans demeure aussi. Un paria errant si loin de chez lui, si longtemps parti, qu'ils ne se rend pas compte qu'il a oublié d'où il est venu, où il va et même qu'il est réellement. Donc en fait, cette petite extrait va parler de notre condition fondamentale ici. Si nous commençons un voyage, il vaut mieux savoir où nous sommes. Donc le cours ne triche pas dans son langage. Ça perce au fond de l'expérience humaine pour dire que nous ne sommes pas dans un endroit heureux. Un peu comme le bouddhisme qui partage l'idée que ce monde est un monde de souffrance. Et donc, dans un langage assez évocateur, il va nous parler de cet état de malheur que nous habitons ici. Or, dans ses errances solitaires et insensées, les dons de Dieu vont avec lui, tous inconnus de lui. Il ne peut pas les perdre, mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Il continue à errer, conscient de la futilité qu'il voit partout autour de lui, percevant combien son petit lot ne fait que s'amoindrir alors qu'il avance vers nulle part. Quand même il va errant dans la misère et la pauvreté, seul alors que Dieu est avec lui. Et son trésor si grand que tout ce que le monde contient est sans valeur devant son immensité. À savoir encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Dieu n'est nul autre que la totalité de cet esprit de l'amour d'où nous venons et qui est notre véritable parent divin. Nous ne pouvons pas en être séparés, en fait. Mais encore, vous voyez, ce langage chrétien évocateur des symboles du christianisme. Parlons de nous encore. Il a l'air d'une triste figure, là, épuisé, les vêtements usés jusqu'à la corde et les pieds qui saignent un peu à cause des roches sur la route où il marche. Il n'en est pas un qui ne soit identifié à lui, car chacun de ceux qui viennent ici a suivi la voie qu'il emprunte et ressenti la défaite et le désespoir comme il les ressent. Or, est-il vraiment tragique quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie et qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte de qui, avec un grand Q, fait route avec lui et d'ouvrir ses trésors pour être libre? Voilà le soi que tu as choisi, celui que tu as fait pour remplacer la réalité. Voilà le soi que tu défends brutalement contre toute raison, contre toute évidence et contre tous les témoins qui ont des preuves montrant qu'il n'est pas toi. Tu ne leur prêtes pas attention. Tu avances sur la route que tu t'es assignée, les yeux baissés de peur d'entrevoir une lueur de vérité et d'être délivré de la tromperie de soi et rendu libre. Assez évocateur de l'état de chacun ici qui se croit perdu dans ce monde, mais en évoquant chaque instant toujours que c'est notre choix, nous sommes accompagnés. Mais c'est bien de savoir déjà où nous commençons, ce qui est essentiel. Les portes ici ne mènent nulle part, bien sûr, mais c'est une réalité très difficile à admettre. Ça ne mène nulle part uniquement dans le sens, ça veut pas forcément dire que ça ne va pas nous donner une satisfaction temporaire. Si je gagne au tiercé, je suis content pendant un certain temps. Si entre guillemets l'amour de ma vie tombe entre mes mains ou entre mes bras, je suis content pour un certain temps, jusqu'à ce que la lune de miel est finie. Et voilà, nous connaissons tous la suite. Les petites portes ici, les plaisirs d'ici, nous satisfaisent jusqu'à un certain point et vraiment pas au-delà. Il y a autre chose, et heureusement, il y a autre chose. Qu'est-ce que je vous ai choisi ici? Alors, voilà. Donc, ce triste personnage, néanmoins, il est habité ou hanté par une voix qui vient d'ailleurs de temps en temps pour briser sa souffrance et pour le rappeler de cette autre chose. Et donc, dans ce passage particulièrement beau, qui s'appelle le chant oublié, Jésus va nous dire qu'il sait que nous écoutons. Il sait que nous nous souvenons qu'il y a une autre réalité. Je vais vous lire cette quatre paragraphes-là. Écoute, tu saisis peut-être comme une allusion à un état ancien, pas tout à fait oublié, vague peut-être, mais aussi étrangement familier, comme une chanson dont le nom est depuis longtemps oublié, et les circonstances dans lesquelles tu l'as entendu complètement effacées de ta mémoire. Ce n'est pas tout le chant qui t'est resté, mais seulement un petit brin de mélodie, qui ne se rattache ni à une personne, ni à un lieu, ni à rien de particulier. Mais cette petite partie suffit pour que tu te souviennes combien ce chant était beau, comme le cadre dans lequel tu l'as entendu était merveilleux, et combien tu aimais ceux qui étaient là et l'écoutaient avec toi. Les notes ne sont rien. Pourtant, tu les as gardées en toi, pas pour elles-mêmes, mais comme le doux souvenir de ceux qui te feraient pleurer si tu te souvenais combien cela t'était cher. Tu pouvais te souvenir. Pourtant, tu as peur, croyant que tu perdrais le monde que tu as appris depuis. Et pourtant, tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. Voilà une petite parenthèse. Il parle ici, ce que je vais évoquer, je vais en parler tout à l'heure. Tu pourrais te souvenir, pourtant, tu as peur, croyant que tu perdrais le monde que tu as appris depuis. Donc, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus, c'est pour avoir une expérience de séparation et de fragmentation. Maintenant, nous avons peur, justement, que nous allons perdre quelque chose si nous nous rendons compte de la vérité. C'est que nous n'avons jamais pu vraiment nous séparer de cette totalité. Et pourtant, tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. Écoute et vois si tu te souviens d'un chant ancien que tu connaissais il y a si longtemps et qui t'était plus cher que toutes les mélodies que tu t'es enseigné à chérir depuis. Nos petites portes. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passé tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier, il est un arc de lumière, d'oreille qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent, et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. C'est aussi un gentil descriptif de la réalité qui nous attend, de cette totalité, cette unité parfaite. Telle est la vision du Fils de Dieu, et tu le connais bien. Telle est la vue de celui qui connaît son Père. Telle est la mémoire de ce que tu es, une partie de cela, avec tout cela en dedans et joint au tout, aussi sûrement que tout est joint en toi. Accepte la vision qui peut te montrer cela et non le corps. Tu connais ce chant ancien et tu le connais bien. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Donc, des thèmes d'amour qui vient, qui revient, qui revient, un amour sans cesse, sans interruption. Pourtant, une conscience très claire que nous ne sommes pas là. Nous ne le voyons pas. Pourtant, nous gardons avec nous un souvenir, une mémoire de cette autre chose. Donc, une particularité du cours, c'est que Il comprend très bien l'objectif, notre vrai but, mais il comprend très bien là où nous sommes. Il nous rencontre, cette philosophie nous rencontre là où nous sommes dans l'actualité de nos expériences de tous les jours. Et c'est là où ça va nous aider pour nous emmener petit pas par petit pas sur un voyage à travers nos expériences quotidiennes, pour les transformer petit à petit, pour voir ce qui est voilé par nos jugements et nos pensées de séparation. Donc, voilà, tout petit, juste deux phrases. Le voyage à Dieu n'est que le nouveau réveil de la connaissance de là où tu es toujours et de ce que tu es à jamais. C'est un voyage sans distance, vers un but qui n'a jamais changé. En fait, dans ces deux petites phrases, ça nous donne pas mal d'informations. Le voyage à Dieu n'est que le nouveau réveil. Donc, c'est simplement un éveil à quelque chose. Mais de nouveau, de la connaissance de là où tu es toujours et de ce que tu es à jamais. C'est-à-dire, nous y sommes. Et c'est ça la chose qui est peut-être le plus étonnante et le plus difficile vraiment à imaginer. Nous y sommes déjà. Nous n'avons jamais pu nous en séparer véritablement. Nous allons passer du temps à réfléchir à ça de temps en temps. Ce n'est pas le vrai point de focus du travail du cours, mais ça nous donne déjà une partie, ça commence déjà à nous donner une partie de la structure. Ce n'est pas une question d'aller quelque part ou de faire des grands gestes ou de faire des grands mouvements dans cette vie. Ce n'est pas un grand déménagement qu'il faut. C'est plutôt une acceptation profonde que nous allons découvrir au fur et à mesure. C'est un voyage sans distance, ce qui est bien sûr un paradoxe. Un voyage sans distance. Ça semble loin, pourtant, à la fin, nous allons voir qu'il n'y avait même pas de distance. Comment il peut y avoir une distance entre là où nous sommes et notre réalité, vers un but qui n'a jamais changé. Et donc, dernièrement, une autre petite phrase, l'idée « Je suis un seul soi uni à mon Créateur ». L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Tu es un en toi-même et un avec lui. Ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Tu n'acceptes pas cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. On croit qu'on s'est changé. Nous croyons avoir fait quelque chose à notre réalité pour ne plus être ce que nous étions. Or, on vient de nous apprendre que nous ne pouvons jamais changer ce que nous sommes en réalité. Ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Ça ne peut pas être plus clair. En tout cas, nous y sommes déjà, donc pas de travail à faire, n'est-ce pas? Si seulement. Donc, ce que moi j'ai retenu de ça, c'est d'abord l'auteur de cette philosophie comprend très bien là où nous sommes. J'ai les pieds qui saignent un petit peu des roches que je trouve sur mon chemin. J'ai les vêtements bien usés des fois à force de frotter et de travailler et d'essayer de ramener ma vie dans une forme qui corresponde à quelque chose que j'aime. De remplir mes besoins, d'aller courir les rues et d'escalader les montagnes pour essayer de trouver ce coucher de soleil encore plus parfait que celui que j'ai vécu l'année dernière ou la semaine dernière. Peut-être demain, ça sera encore plus beau. L'océan, est-ce qu'elle était encore plus belle qu'elle était il y a 2 ans quand j'ai eu cette expérience vraiment métaphysique quand j'ai regardé les goélands et tout. Et puis, il y a certaines expériences qui semblent vraiment spirituelles ici, mais certains endroits, certaines choses. Mais c'est uniquement parce que ça nous rappelle encore de cette chose, de ce champ oublié, la réalité derrière ce qui semble la réalité. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler dans ce cas-là? Si l'amour est une constante, l'amour ne peut pas, cette réalité derrière les apparences ne peut jamais partir. On nous a garanti, un cours en miracle n'est certainement pas la seule spiritualité qui parle d'une réalité inchangeable derrière les apparences. Loin de ça, il y en a plusieurs grandes familles de philosophies qui prêchent ça. Ce qui veut dire que quelque part notre expérience est particulièrement trompeuse, mais particulièrement. Un endroit que nous n'avons jamais quitté et une amour constante. Donc comment dans ce cas-là parler d'une porte à pousser? On ne peut pas vraiment pousser une porte vraiment puisqu'on y est déjà. Ça complique les choses un petit peu. On peut parler peut-être plutôt d'autres choses. On peut dire presque, on peut inverser même la question. Au lieu de dire comment chercher la bonne porte et comment pousser la bonne porte, si nous y sommes déjà dans cet état d'unité parfaite, est-ce que ceci ne veut pas dire que tous les jours je suis en train de pousser une mauvaise porte, une autre porte, vers la dualité, vers la fragmentation? Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose sur la route ou face à quelqu'un dans l'administration au téléphone, encore je suis devant une. Je suis dans la totalité, dans l'unité d'amour. Ok? Mais soudain, ma conception de l'amour est totalement brisée. Il n'y a pas un brin d'amour parce que j'ai été mise en attente trois fois. Et à la fin, je parle avec mon portable. Et puis à la fin, on m'a dit de toute façon, la personne n'est pas là. Et d'ailleurs, la personne ne prend pas de message. Donc, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je prends ma revanche. Je le répète. Je ne vais pas vous dire qui. Quoique. Non. Fait ça, on ne fait pas ça. Si on fait partie d'un cours miracle, on ne fait pas ça. Mais néanmoins, ça c'est les petites portes, ça c'est les véritables instants où nous quittons. C'est presque comme si nous baignons dans cette sorte de totalité et nous décidons de quitter chaque fois qu'il nous arrive un truc qui nous contrarie. Nous ouvrons une autre porte, ils nous claquons derrière nous et nous disons à la fin, ben voilà, maintenant je suis bien contrarié, mais... C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Hein. Si cette personne a pu simplement répondre au téléphone parce qu'elle est payée pour en plus, après tout, est-ce que moi je suis fonctionnaire avec un CDI à l'éternité jusqu'à ma troisième vie est-ce que. Hein? Elle n'est pas payée pour répondre au téléphone? Et moi, pauvre indépendant que je suis, hein? Bon, c'est juste pour dire qu'à des moments comme ça, quand je suis contrarié, j'ai ouvert une porte, ce n'était pas la bonne, j'ai décidé de quitter l'amour qui nous est promis être une réalité, être une constante. Donc nous pouvons commencer à poser d'autres petites questions. Si en fait notre réalité ici, la façon que nous éprouvons notre vie, et nous avons l'impression de vivre une vie de difficulté, il faut que j'ouvre des portes, il faut que j'ouvre des bonnes portes. Tous les jours, j'essaie d'ouvrir une meilleure porte. Je veux ouvrir la porte vers une place de parking facile. Après, je voudrais ouvrir la porte vers une façon de marcher dans cette rue remplie de milliers de gens pour que je puisse arriver à mon rendez-vous à peu près à l'heure.
Peut-être
que
je vous
demander,
si vous avez un parking.
Ah oui, des fois ça marche aussi.
Ah, ça marche toujours.
Ah oui, d'accord. Je prends la voiture avec toi. S'il te plaît, prends-moi dans ta voiture. Je serai ravi. Non, si, j'ai une meilleure idée. Tu viens avec moi dans ma voiture. Ça, c'est ma garantie.
Il a dit demander, ça
serait.
Il faut penser à demander.
Non. Moi, je ne dois pas pousser sur le bon bouton. J'ai pas la ligne directe. J'ai dû avoir appuyé sur le mauvais numéro. Et donc, l'idée, c'est simplement que voir maintenant comment nous allons retourner la question un petit peu, de voir que chaque fois que quelque chose nous contrarie dans la vie ici, c'est un instant que nous sommes où nous sommes en train d'utiliser les scènes devant nous pour quitter notre foyer céleste dans l'esprit, pas en termes d'étoiles et tout, mais dans l'esprit. Nous sommes en train de quitter l'esprit de notre foyer céleste pour entrer dans un monde de fragmentation, de relations d'adversaires, de relations de compétition avec d'autres personnes, de relations de besoin, de manque, où j'ai besoin que la personne réponde au téléphone pour moi, pour satisfaire mes besoins, sinon on ne sait pas quoi, mais avec une idée quelque part de danger ou de vulnérabilité. Donc ça entraîne jugement, rancœur, frustration, irritation, peut-être même colère et rage selon la situation. Donc, on peut dire que les trois questions que je me pose maintenant à ce moment-là, quand je regarde ce schéma de porte, c'est comment est-ce possible que je pousse la mauvaise porte? Pourquoi? Et comment? Pourquoi est-ce que je continue à pousser la mauvaise porte? Si la première chose qui m'arrive le matin quand je me réveille, c'est que soudain, je me sens entièrement un avec la totalité de l'existence et Dieu, sans brèche, sans faille entre moi et le reste. Et je fonde dans cette masse, je sais que je ne suis plus cette identité personnelle, ce corps. Qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et le moment quand le grippin crame mon pain, la cafetière ne marche plus et je dois partir sans avoir mangé et sans avoir bu mon café. Et que voilà, comme vous le savez bien sûr, j'arrive au premier céder le passage pour l'autre, il ne cède pas le passage et puis j'ai failli me plafonner dans le talus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand je quitte cet état parfait d'amour et d'unité pour me disperser entièrement dans le monde de la dualité, de la fragmentation, du jugement. Pourquoi? Et pourquoi je le fais systématiquement? Des fois peut-être pas, mais assez souvent. Chaque fois que je suis contrarié, chaque fois il y a quelque chose qui me dérange. Je suis en train de dire quelque chose m'a enlevé la paix de Dieu. Quelque chose m'a enlevé mon état d'unité parfaite avec l'ensemble. Je suis parti, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Et donc, maintenant, je dois juste essayer de me dépatouiller, comme je peux. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça si systématiquement? De ne pas rester dans cet état, de ne pas rester avec la porte grande ouverte vers le ciel. Mais plus encore, c'est qui ce pousseur de porte? Qui est-ce qui est en train de pousser ces portes partout sans que je le sache? Parce que mes humeurs, la façon que j'éprouve ma vie, que j'expérimente ma vie, je n'ai pas l'impression que je suis en train de faire une série de choix. C'est juste des choses qui m'arrivent. Je n'ai pas eu vraiment le choix. Quand la dame dans l'administration m'a raccroché au nez, je dis c'était urgent, est-ce que je peux laisser un message? Non, elle ne prend pas de message. Ou autre, la dame à la caisse systématiquement, vous savez, la dame, elle est mal lunée. Tous les jours, la lune, elle est mal placée. D'accord? Il n'y aura pas de bonjour, il n'y aura pas de revoir non plus. Il y aura juste, combien c'est? Enfin, c'est, ça sera 12 euros, monsieur. Et même, ça sera 12 euros. Ou, 12 euros. Si ça ne vous est pas arrivé, je peux vous promettre que ça existe. Tu dois venir avec moi plus souvent. Je sens. Hein.
C'est la loi d'attraction. Hein.
Ah oui, d'accord.
Alors, si on se met à la place de l'autre, on a les problèmes. Elle n'est pas justement
absolument.
Donc, voilà, oui. Donc ça peut...
Oui.
Des fois, nous-mêmes, on n'est pas toujours... Mais ça fait partie de la spiritualité, je pense.
Oui. Il y a certaines façons de d'être dans ce monde où on atténue certainement ce genre de choses. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui sont absolument aveugles à ce genre de démarche envers eux, dans l'esprit et aussi dans la réalité, pour leurs propres raisons. Donc ça demande bien sûr notre compréhension, notre compassion. Et puis, où est-ce que j'étais? Donc nous poussons cette porte, la question c'est comment est-ce que nous poussons cette mauvaise porte? Pourquoi? Et c'est qui ce pousseur de porte? Peut-être si nous savons déjà ça, pourquoi nous poussons cette mauvaise porte tous les jours pour quitter ce foyer? Peut-être nous aurions déjà plus d'informations. Peut-être si nous connaissons un petit peu mieux ce pousseur de porte, nous aurions une meilleure emprise sur la situation pour savoir exactement ce que nous devons faire la prochaine fois que nous sommes devant une situation qui nous tente de pousser la mauvaise porte. Donc, par la suite, nous allons effectivement parler très spécifiquement de la bonne porte, comme s'il y a une bonne porte. Nous pouvons parler d'une bonne porte dans le sens qu'une fois effectivement que nous avons poussé la mauvaise porte, nous cherchons effectivement la porte de retour vers cet état de perfection et d'harmonie. À ce moment-là, effectivement, nous pouvons parler d'une bonne porte par rapport à cette mauvaise porte. Donc le cours a son propre langage pour ça, pour les deux portes. Le cours a aussi son propre langage pour le pousseur de porte. C'est trois concepts clés. Je propose de juste vous faire un petit descriptif, une petite révision pour les autres, du parcours que nous avons suivi de notre état d'unité parfaite vers cet état de dualité, de fragmentation, parce que ça va nous aider à retrouver cette structure. C'est une structure assez simple, mais très puissante, parce que ça nous donne la clé et un bon descriptif du rôle de ces différentes parties de l'esprit et des acteurs et armés avec cette information, ces idées-là, nous commençons à voir comment nous fonctionnons dans la vie ordinaire, comment notre esprit commence, nos actes commencent à devenir plus transparentes dans nos motivations. Nous voyons un petit peu plus facilement pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Donc ceux qui ont été là déjà depuis un moment vont reconnaître très facilement ce schéma. On va faire plus brièvement, on ne va pas faire le grand voyage, on va faire le voyage raccourci. Le grand voyage, vous trouvez sur le site en forme des enregistrements des conférences de la dernière saison, plus le diagramme que nous avons fait qui s'appelle le schéma, qui est assez complet, avec des petits chiffres, des petites étapes qui suivent. Encore, c'est une mythologie, c'est juste une histoire qui aide à nous donner une façon d'organiser les informations de notre expérience. Comme si nous sommes séparés de notre réalité, comme si nous avons entamé un voyage long et difficile, pour finir dans ce monde où nous semblons être séparés, des êtres séparés, concurrence les uns avec les autres. Donc c'est une histoire, mais une histoire très pratique, très utile. Vous allez voir, ça c'est la version très raccourcie. Pour ceux qui connaissent le grand format, c'est extrêmement raccourci. Donc l'idée tout simplement, c'est que nous avons commencé tous au début au ciel dans une grande et heureuse famille que nous appelons simplement Dieu ou l'esprit d'un, la totalité, notre foyer divin, notre foyer céleste. Il n'y a que amour, extension, non-différenciation. On ne peut même pas parler de choses séparées ou de conscience séparée. C'est juste une totalité qui s'étend à l'infini partout. C'est notre réalité, c'est la seule réalité. Tout le reste, selon un cours en miracle et aussi selon d'autres spiritualités, est entièrement illusoire. Un cours en miracle partage cette idée. Donc la question par la suite, c'est mais comment expliquer cette apparence, cette expérience de séparation, de fragmentation? Et donc c'est là où nous voyons qu'une chose très étrange s'est produite à l'intérieur de la totalité. C'est qu'une partie de la totalité, si nous pouvons ainsi en parler, s'est posée une petite question. Et s'il y avait autre chose que cette totalité? Et si on pouvait avoir un autre genre d'amour? Pas l'amour qui s'étend à l'infini vers toute chose, mais un amour plus particulier qui peut aimer spécialement les petits morceaux, pas le grand morceau en entier. Ce n'est plus intéressant, on veut autre chose. À ce moment-là, il s'est produit une chose assez remarquable. C'est qu'en fait, cette partie de la totalité que maintenant nous allons utiliser le langage du cours en miracle, d'un cours en miracle qui va l'appeler la filialité ou le fils de Dieu, parce que ça reste toujours une partie intégrale de Dieu, de l'esprit divin, mais pour donner une dénomination différente, et nous l'appelons le Fils de Dieu, il était rempli de cet esprit de non-amour ou de culpabilité, pensant qu'il a réussi son coup. Il pense qu'il a réussi cette séparation. Il pense maintenant qu'il est quelque chose séparé, mais en s'étant séparé, il a commis un péché, il a commis un crime, un acte répréhensible qui mérite par la suite punition, châtiment. Et donc, il se dit, il faut que je parte au plus vite possible parce que la totalité va revenir me chercher pour me réintégrer au sein de lui et je vais mourir. Une fois qu'il a eu la pensée de séparation, il s'est identifié avec la pensée de séparation, il pensait qu'il était séparé, alors il pensait qu'une réintégration dans la totalité sera sa mort, sera la fin de sa séparation, son aventure de séparation. Il ne savait pas du tout ce que nous sommes en train d'apprendre, mais un état de séparation ne peut pas être un état de bonheur, de paix, de tranquillité. Il n'y a que dans l'amour, dans la totalité de l'amour, que nous pouvons être entièrement satisfaits et dans la présence d'amour. Donc, maintenant, il s'identifie avec la pensée de séparation, il pense qu'il est séparé, et le prix de cette pensée de séparation, c'est le non-amour. C'est la pensée qui n'est plus dans l'état d'amour et qu'il a fait quelque chose de répréhensible par rapport à la source d'amour. Donc, il doit partir au plus vite. Il doit s'éloigner, de mettre la plus grande distance entre lui et l'origine, entre Dieu. Il pense maintenant que Dieu, dans sa folie, il pense que Dieu est devenu un père enragé, le père de la Bible, en fait. Ce qui n'est rien de la sorte, bien sûr. Le vrai Père céleste ne connaît que l'amour. C'est son état. Il ne peut pas changer. Mais nous pouvons imaginer, maintenant, que nous sommes en relation d'adversaire avec la source, en compétition. On a voulu prendre la place du Créateur en s'étant auto-créé, en se fragmentant. Rempli de culpabilité, il dit, je dois mettre une distance, la plus grande distance entre moi et cet autre. Et cette distance s'appelle le Big Bang. À l'instant que le Fils de Dieu, que la partie séparée de l'ensemble, s'est dit, je dois mettre la plus grande distance entre moi et la totalité, il s'est produit le Big Bang il y a à peu près, je ne sais pas, 16 milliards d'années. Donc fragmentation en des milliards innombrables de morceaux pour s'éparpiller le plus loin possible. L'idée que nous retrouvons la même idée ici que quand on apprend que, par exemple, lors du vol d'une banque, les braqueurs se sont séparés en toutes les différentes directions, pensant que s'ils se séparent, ils sont beaucoup plus difficiles à repérer. C'est la même idée. On se casse littéralement en mille morceaux, on se casse d'ici, on se casse en milliards et milliards de différents morceaux, il ne peut pas possiblement nous trouver tous. C'était cette idée-là. Donc, fragmentation, processus de fragmentation et de temps, et éventuellement, nous donnons naissance à la Terre, et puis ces corps que nous avons l'impression d'habiter. À ce moment-là, nous sommes ici dans un corps, dans un esprit, ce que c'est pour raccourcir, pour faire plus vite. Les autres ont eu droit à plusieurs séances, longues séances de tous ces processus que normalement nous prenons un peu plus de temps pour faire. Nous finissons ici dans une genre d'inconscience, en ayant oublié complètement toute cette histoire ici de notre origine. Comme encore cette idée d'échelle, boum, 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 nous arrivons en bas de l'échelle. Chaque fois que nous sautons une marche, que nous descendons une marche, nous oublions en fait la marche précédente, nous oublions d'où nous venons. Tout ce que je sais maintenant, c'est que je suis né dans ma famille biologique. J'ai l'impression que c'est certainement pas ma faute, mais c'est pas moi qui ai demandé de venir. Et puis, je n'ai qu'à me débrouiller dans ma vie contre toutes les différentes difficultés. Je n'ai qu'à essayer de satisfaire mes besoins aussi bien que je peux. Vous connaissez tous les lois de la société. Ici, il suffit juste de brancher la télé et regarder quelques séries américaines ou autres. Et on comprend très bien la façon que nous sommes censés mener la vie ici. Donc, ça, c'est dans l'inconscience de ce que nous appelons dans le cours l'esprit faux. Malheureusement, même en s'étant séparé avec toutes ces différentes, on pris la peine de se séparer en des milliards de morceaux et de fabriquer des sociétés modernes comme aujourd'hui, néanmoins, nous restons toujours avec cette idée de culpabilité ou de mal-être ancrée au fond de nous. Bien sûr, c'est impossible de se sentir bien si nous sommes séparés de notre source. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce petit esprit fou, ou ce que le coup appelle aussi l'ego, qu'est-ce qu'il fait, ce petit individu qui pense qu'il est un individu, qu'est-ce qu'il fait pour se débarrasser de ce mal-être? D'abord, il essaie de remplir ses besoins aussi bien qu'il peut, avec toutes les jouets et toutes les relations qui pourraient possiblement lui satisfaire. Mais plus pernicieux encore, c'est qu'il essaie systématiquement de mettre la responsabilité pour son mal-être, pour le mal qu'il ressent, il essaie de mettre ça sur le compte d'autres gens, sur le compte d'autres personnes. Il essaie de dire systématiquement, ce n'est pas ma faute que je me sens mal, c'est la faute de cette dame à l'administration, c'est la faute du chauffard. Cet acte-là s'appelle la projection. Donc, ça c'est la dynamique dans laquelle l'esprit faux entre. À l'inverse de l'esprit faux, nous avons un autre esprit, celui que nous avons tous soupçonné, qui s'appelle l'esprit juste. L'esprit juste contient le souvenir de la réalité et la vision de l'unité derrière toutes les choses ici. C'est ça notre objectif dans ce monde ici. Ce n'est pas trop de réfléchir à ça, c'est vrai, ça c'est la réalité. Il y a certaines spiritualités qui nous encouragent à focaliser uniquement sur ça. C'est particulièrement difficile. C'est la méthode du cours nous fait focaliser ici en bas de l'échelle. Chaque fois que je suis contrarié, qu'il y a quelqu'un que moi j'estime m'a enlevé la paix qui est mon droit, ça c'est une pensée clé, ça c'est une opportunité clé pour revenir au point de départ pour moi et réfléchir, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai fait, quelle porte j'ai poussé, quelle porte est-ce que je veux pousser. Et systématiquement nous faisons ces micro-corrections à notre pensée en corrigeant notre volonté, et au fur et à mesure nous dégageons, nous enlevons, nous faisons disparaître la culpabilité qui est une genre d'iceberg, la culpabilité qui habite cette partie de notre esprit, cette mal-être basé simplement sur une envie de rester séparé et individuel. Petit à petit que nous voyons le prix que nous payons pour cette vision de séparation et de relation d'adversaire, de concurrence, nous faisons des petites corrections, nous basculons sur l'esprit juste et nous guérissons, utilisant le langage du cours, notre vision, notre esprit brisé, notre esprit divisé. Donc, voilà le petit topo qui est important pour la suite, parce que... Ah, oui, mais ça va venir, hein. Voilà. Le petit topo de l'origine ici, qui est clé, parce que ça commence à nous donner cette structure ici, parce que l'esprit fou représente bien sûr la petite mauvaise porte quand je décide de me fâcher contre la dame dans l'administration ou la boulangère ou je ne sais pas qui, ou le chauffard. L'esprit juste représente la grande porte, très claire, très dégagée, toujours ouverte, qui représente mon choix de dire non, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de connaître autre chose de l'existence ici et de me rappeler que ce chauffard n'est pas responsable pour ce que je suis en train d'éprouver et d'expérimenter. Donc, mauvaise porte, bonne porte, aussi simple que ça, parce qu'une fois, comme nous avons dit, même si la réalité ici que nous sommes ici, ce n'est pas notre expérience c'est ici, petit esprit faux, faux simplement dans le sens qu'il a des mauvaises informations, il a une mauvaise interprétation et vision de la réalité, il n'est pas séparé de la totalité, à savoir que dans le cours, la traduction de si la réalité c'est une unité parfaite, la traduction de cette idée ici au niveau de notre vie très terre à terre, c'est une similitude parfaite. Là, c'est unité parfaite, ici c'est similitude parfaite. Nous ne pouvons pas voir, sauf vraiment à la fin, nous ne pouvons pas voir ici dans nos vies vraiment une unité parfaite. C'est-à-dire, peut-être il y a certaines personnes qui arrivent à la faire, mais notre objectif, c'est de travailler vers cet objectif petit à petit, et ça se fait en cherchant la similitude. En anglais, on a un autre mot, sameness, perfect sameness, mais on n'a pas ça, on n'a pas cette expression en français. Ça n'existe pas, une espèce de paritude, mais un état de pareil exact. Donc, similitude, l'approche un peu, une similitude à l'identique. Nous sommes exactement les uns comme les autres. Voilà. Exactement. Et donc, le processus du cours, entre autres, c'est d'utiliser tous ces petits événements de la vie, les événements très banals, les événements très fâcheux, qui nous irritent, qui nous donnent l'impression que je suis bien parti de mon état d'origine du ciel, d'utiliser ces moments pour faire ces micro-corrections à ma vision, à ma vue, pour me rappeler que j'ai simplement poussé la mauvaise porte. C'est tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas un péché. Il n'y a aucune raison de ressentir la culpabilité, quoi qu'il soit. Si nous écoutons bien ce qui se passe au moment que je suis devant une autre opportunité de pousser la porte, je sens venir un dérangement en moi, un petit instant de contrariété. Je ne sais pas si quelqu'un a un exemple. Le chauffard, c'est toujours un bon exemple. Il n'y a personne qui reste très neutre face à un chauffard dangereux. C'est assez rare. Ou aux infos. Je ne sais pas si vous avez écouté les infos ce soir. Mais souvent, il y a une information qui risque de nous perturber notre, ce que nous pensons est notre bien-être, notre bien intérieur. À ce moment-là, ce qui est en train de se passer, c'est que nous pouvons dire que si je suis contrarié, si je sens ça venir, ça veut dire que je suis déjà dans un état de séparation. Je me suis déjà séparé dans l'idée de mon existence, de mon Père Céleste, de mon foyer, de mon origine. Je ressens automatiquement un mal-être parce que, étant séparé de l'amour, c'est un état de non-amour par définition. Je sens aussi une sorte de culpabilité ou responsabilité pour ça, que je vais par la suite chercher à tout prix à mettre sur d'autres facteurs. Je ne peux pas le contenir. Je peux soit l'occulter et dire non, tout va bien. D'accord? Ce que nous arrivons tous à faire, un peu. Mais à un moment, ça déborde le petit mal-être ou le grand mal-être, le petit tension intérieur, le grand tension intérieur déborde. Et il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. C'est quelque chose d'absolument neutre, ce qui est arrivé. Mais pas dans notre interprétation. Il y a quelque chose en nous qui dit, eh ben voilà, ah, j'ai trouvé, voilà, c'est ça. Tu as vu ce qu'il a fait? Comment tu peux possiblement rester neutre ou indemne face à ce qui vient de se passer? Et des fois, ça peut être aussi des choses très injustes dans ce monde. Il y a des choses extrêmement injustes dans ce monde. Donc, ce n'est pas juste pour blaguer et dire, ben voilà, la dame dans l'administration, elle m'a raccroché au nez. effectivement, je peux facilement trouver peut-être deux personnes qui sont d'accord avec moi. Mais quand on regarde des enfants handicapés à cause des mines de guerre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, nous sommes toujours face à une porte. Et nous devons toujours nous poser la question, où est-ce que je me situe? Où est-ce ma réalité ici? Où est-ce que c'est ma réalité ici? Surtout par rapport à ces questions de mortalité, c'est un challenge, un très grand challenge. Ça nous oblige à basculer sur notre plan, d'essayer de comprendre comment nous, aussi bien que les autres, peuvent coexister avec une autre existence, que peuvent exister dans un état de pur esprit en même temps qu'exister ici en tant qu'une forme corporelle. Ça nous oblige à faire un travail difficile, mais un travail qui mérite la peine pour essayer de basculer le siège de notre identité ailleurs, en dehors de notre identité physique, individuelle, corporelle, vers l'esprit pour dire nous sommes aussi autre chose en même temps. La grande porte. D'accord. Vers qui nous libère un petit peu plus de notre attachement à ces petites identités corporelles qui essaient de qui nous invite à prendre un pas de plus vers notre réelle identité dans l'esprit, le grand esprit, qui nous réunissent tous ensemble. Donc, le passeur de porte dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est cette position ici qui choisit entre les deux, qui s'appelle dans le langage du cours simplement le décideur. Rien de particulièrement exotique. Vous n'allez pas voir en fait le terme utilisé dans le cours, le mot décideur, mais c'est une évidence. Parce que tout le long du cours, il nous invite à décider entre l'esprit faux et l'esprit juste. Nous ne sommes pas l'esprit juste et l'esprit faux. Nous choisissons l'un ou l'autre. Ce que nous sommes à chaque instant, c'est celui qui décide entre les deux. Et cet décideur se trouve dans l'esprit. C'est essentiel. C'est très important. C'est-à-dire que quand nous avons des expériences ici dans le monde, nous ne sommes pas vraiment en train d'avoir des expériences ici dans le monde. Nous sommes en train d'avoir une expérience de notre propre choix d'individualité qui entraîne par la suite toute une série d'expériences difficiles. Parce que forcément, l'investissement dans l'individualité entraîne des expériences difficiles. De vulnérabilité, de sensibilité, de autodéfense, de défense de soi-même, de valorisation de soi-même. Ça nous oblige, quand nous avons pris le choix de nous sentir de plus en plus attachés à ces idées d'individualité corporelle. Moi, Bernard, Rémi, Claude, Isabelle, ensuite. Moi, celui-là, cette chose-là, indépendant et séparé de toute autre chose. Ça entraîne par la suite, naturellement, toute une série d'expériences que nous ressentons une sorte de force. C'est inconscient. Avant qu'on sache, on a trouvé quelque chose qui nous dérange. Mais nous avons déjà été dérangés dans l'esprit par notre propre choix de ressentir la entre guillemets vulnérabilité du corps. Le corps n'est pas très physiquement, le corps est très vulnérable, mais par rapport à ses émotions, le corps n'est pas vulnérable du tout. C'est l'esprit qui rend le corps vulnérable, qui choisit la vulnérabilité pour ce corps. Votre collègue qui vous a dit bonjour avec une accolade depuis 5 ans, tous les matins exactement pareil avec un grand sourire, demain, il va oublier. Demain, il va passer à côté de vous. Il ne va pas vous voir. Il va faire semblant de vous voir. Le corps s'en fiche. D'accord, ma peau, on n'a pas touché sa peau. D'accord, ça en fiche. C'est l'esprit qui est complètement vulnérable à cette lacune, à cette manque. Je vais passer la matinée à ruminer, à dire... D'accord, ok, qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, le rapport, c'était à temps, d'accord, ok, et puis, bien sûr, ce que j'ai négligé de dire, c'était votre supérieur. Hein? Et plus tard dans la matinée, quand tu vois un autre sur ton bureau, viens me voir. C'est l'esprit. Le corps s'en fiche. D'accord, viens me voir. Je vais bouger ce corps vers son bureau. Ce n'est pas le corps qui interprète là. C'est l'esprit, le décideur, qui est en train de choisir entre ces deux possibilités. Il n'y en a que deux. Donc, notre expérience est toujours dans le décideur, en train de décider entre ces deux possibilités. Soit la defensiveness, la sensibilité, la vulnérabilité de mon esprit individualisé et séparé d'une totalité et surtout séparé et différent des autres avec une idée de besoin de valorisation ou le rappel que je suis encore embrassé entièrement par la présence d'amour et que je n'ai jamais rien fait qui mérite le moindre ressenti de culpabilité ou de gêne, même si j'en ai des fois, ce n'est pas justifié. Je n'ai plus besoin, je vois l'origine de ces pensées et je vais contredire la voix qui me dit que ces ressentis et ces ressentiments sont justifiés. Je suis le pousseur de porte et je décide entre ces deux portes. C'est pour ça que je m'appelle Groom. J'ai vu ça ce soir. J'étais sûr que ça allait être utile un jour, j'allais pouvoir m'en servir. Je disais, mais punaise, poussière de porte, poussière, où est-ce qu'on m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps? D'accord. Donc, j'essaie d'ouvrir les portes, de vous montrer les portes, vous voyez. Donc, nous sommes tous les pousseurs de nos propres portes. Nous sommes que le pousseur de porte. Maintenant, pour reprendre à cette autre question que nous avons posée, c'est pourquoi nous insistons à pousser la mauvaise porte? Tout simplement, chaque fois que nous poussons la mauvaise porte, le pousseur décide de pousser la petite porte, c'est uniquement parce qu'il se sent plus, entre guillemets, vivant et plus individualisé et plus séparé encore avec ce genre d'adrénaline. Chaque fois qu'il peut ressentir un gêne, un problème ou un moment d'extase, pareil. L'extase, le plaisir extrême, aussi bien que la douleur, c'est des choses très personnelles, très individuelles, individualisées. Donc, nous sommes accros à l'individualité. Nous sommes accros à ce sentiment de séparation. C'est pour ça que nous insistons, nous continuons à pousser la porte du gêne, de la gêne, chaque fois que j'ai une opportunité de choisir entre une perception paisible et une perception dérangée, j'ai choisi la petite porte vers la gêne parce que je me sens valorisé dans ma gêne, dans ma position, j'ai une opinion, je vais en parler 5 fois aujourd'hui, j'ai 5 personnes à qui je peux raconter cette histoire de ce qui m'est arrivé ce matin. Le chauffard, tu peux aller loin avec ça, beaucoup de kilomètres, littéralement, avec le chauffard. 5 fois je vais raconter la même histoire, chaque fois je vais ressentir le même coup de danger personnel. Et je vais même essayer de transmettre ça à d'autres personnes. La personne qui me regarde en face, entièrement neutre, face à mon histoire, je vais dire, mais il y a un décalage complet. Je cherche à reproduire cette expérience chez l'autre. Et lui, souvent, puisqu'il est aussi là en train de regarder sa petite porte et il veut aussi un sentiment de... Et il va dire, il va commencer à s'emballer exactement pareil, je peux pas croire. Et tu sais quoi? Tu sais ce qui m'est arrivé moi l'autre jour? Il y a du vécu. En entendant les gens et en sentant, même si je vous dis ça, je suis sûr que demain, ça sera exactement pareil. C'est pas gênant, il n'y a aucun problème. Notre objectif, c'est de commencer à se voir le faire. Jouer ce jeu d'adrénaline, d'individualité, et de vouloir emballer les autres dans notre jeu d'individualité pour que tout le monde soit dans ce sentiment d'injustice ensemble. Extrêmement personnel. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ouvre l'autre porte face soit à la situation d'origine, quand le chauffeur me coupe la route, ou quand mon chef m'appelle, ou qu'est-ce qui va nous empêcher, ou qu'est-ce qui va nous changer d'avis quand je vois un ami à midi et je me sens me lancer dans mon histoire pour une raison, pour valoriser ma gêne, pour expliquer ma gêne et pour ensuite le transmettre à l'autre pour qu'il puisse aussi faire le mauvais choix, s'emballer comme moi, et puis on peut avoir cette discussion sur les différentes injustices, et à la fin, on va dire « Ah, voilà, on se sent mieux !» Vous savez pourquoi on se sent mieux après avoir fait le tour du monde et toutes les injustices ? C'est parce qu'on pense qu'on a gagné. On a gagné l'individualité. On a repoussé l'amour. Loin ! La totalité balayée. L'univers de Dieu, de l'amour céleste et tout ça. Ah non. Nous, on sait que l'individualité est réelle, les injustices sont réelles. Lui, il me l'a dit. Et l'autre est en train de dire, mais lui, il me l'a dit. Ensemble, on fait ce jeu de ping-pong et on a l'impression tous d'avoir validé le perspectif. La soi-disant réalité que l'individualité et l'injustice et ce monde est réel, ce monde n'est certainement pas abstrait. Et c'est pour ça qu'on dit à la fin, après notre repas, on a fait le tour du monde et on se sent quelque part rassuré, mais rassuré pour l'instant parce qu'on pense avoir écarté la réalité, c'est que rien de ça est vrai. L'autre porte reste toujours ouverte. Simplement, qui regarde tous ces problèmes qu'on a couverts à midi et qui dit « ce n'est pas ainsi ». Comme dit le cours, et Dieu pense autrement. Il y a une paix qui sous-tend toute chose ici, qui efface l'importance et la réalité de toute chose ici, comme nous avons vu tout à l'heure dans les citations que je vous ai données. Ce processus de réfléchir quand je sens se remonter de contrariété, et si je sens que je suis en train de pousser la petite porte, ce processus de réflexion qui dit est-ce que j'ai vraiment envie de revivre ça encore une xième fois, comme si je vais vraiment pouvoir valider ma position, valider mon opinion, valider ma position, valider ce monde. Est-ce que je veux vraiment refaire ça encore une xième fois? Il n'y a pas de souci si c'est ce que vous avez envie de faire. Mais au moins, on sait qu'on a le choix. On n'est pas obligé, surtout quand on se rend compte du prix qu'on paie pour pousser la petite porte. C'est la peur, la tension, une croissance de sentiment de culpabilité. Ce n'est pas une diminution. Vulnérabilité, sensibilité, différence avec les autres, donc plus de sens d'adversaire avec les autres, donc plus de peur. Le plus de différence que je vois avec les autres, le plus que je pense que j'ai raison d'avoir peur. On paye un prix très lourd de pousser la petite porte, malgré ce qui semble les dons, ce qui semble les avantages de tomber dans la critique, le jugement, les différences. L'injustice. On paye un prix très lourd. Ce processus s'appelle le pardon. J'y suis d'abord en train de pardonner l'autre pour ce qu'il n'a pas fait. Selon le cours, le langage du cours, l'expression du cours, je pardonne mon frère pour ce qu'il n'a pas fait. il m'a fait quelque chose, effectivement. Il m'a traversé ma route, peut-être il a provoqué un accident avec ma voiture. Ça, c'est absolument ça, c'est les faits. C'est mon interprétation qui n'est pas un fait. C'est mon interprétation qui dit, il a fait mal à moi, il m'a enlevé la paix de Dieu, la paix céleste, la paix, l'amour magnifique qui est mon foyer, et c'est complètement évaporé à l'instant qu'il a coupé ma route et qu'il m'a envoyé dans le talus. Ça, c'est une interprétation qui est fausse, issue de l'esprit faux. La porte est toujours ouverte, la réalité est toujours stable, imperturbable. Cette présence est toujours avec nous à chaque instant, qui ne peut pas partir, qui ne peut pas changer. Ça semble une donnée que je serais perturbé. Ce n'est pas que je sois fâché, que je sois enragé, que j'ai peur. C'est un choix. Il n'y a aucun problème si nous retombons automatiquement dans ce choix. Ce qui est très bien, c'est de revenir après et dire « Je suis encore dans la peur. » Peut-être une semaine plus tard, nous avons eu un accident au mois de février. On a fait une tournure dans la voiture et nous sommes obligés souvent de revenir dessus parce que des fois, ça nous arrive de c'est à cause du verglas au mois de février. Nous sommes obligés des fois de revenir dessus parce que des fois la peur nous revient quand on enroule. De savoir que la peur corporelle, la peur du corps et tout ce qui peut arriver, c'est d'abord un choix de nous sentir particulièrement investis et attachés au corps, habitant le corps, comme si nous n'étions pas ailleurs. La réalité, c'est que nous sommes ailleurs. Donc, je peux commencer à me rassurer que même si j'ai ces craintes-là, il y a un autre aspect à la réalité, un autre aspect à la vie que je suis aussi, qui est protégé, entièrement et éternellement protégé. Donc, ce processus s'appelle le pardon, parce qu'il pardonne mon frère pour ce qu'il n'a pas fait. Il a accidenté ma voiture, c'est sûr, mais il n'a pas pu écarter la présence de l'amour de mon esprit. Personne ne peut le faire. Il n'y a que moi qui peux le faire, mon pousseur de porte, mon décideur. Le pardon, ce que je voudrais faire, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je pense que ça fait déjà un bon morceau. Nous allons utiliser cette métaphore un petit peu tout le long de ces séances, cette saison jusqu'au mois de décembre. J'ai envie de regarder avec vous toutes les différentes façons que nous poussons de mauvaises portes et de nous remettre encore et encore dans la position du décideur, du pousseur de porte. C'est l'endroit de puissance de notre vie, c'est l'endroit de pouvoir, l'endroit de choix. Tout pouvoir sur tel et sur c'est quoi l'expression sur le au ciel et sur la terre vous êtes donné, c'est ça. De toute façon, on reproduit exactement le même. C'est dans le, oui, voilà, c'est dans la cour, c'est exactement pareil. Puisque nous sommes là, nous ne sommes pas littéralement vraiment dans les corps, nous sommes encore dans l'esprit, en train de choisir entre deux esprits séparés et distincts, qui ont des perceptions, des interprétations et des expériences entièrement différentes de cette vie ici. Donc c'est ce que nous allons travailler. Donc pour finir ce soir, je voulais juste vous lire une méditation. Une petite méditation que, si ça ne vous dérange pas, comme j'ai fait une autre fois, parce que je n'aime pas en fait... J'ai l'impression d'être dans un bureau souvent. Donc, je m'installe un peu différemment. Regardez si ça, c'est pas mignon.
Ça va.
Oh. Est-ce que vous voyez des choses? Tu peux appeler. Bon, on est à la... je pense qu'on peut... on a fait trop d'économies avec cette ampoule. On peut peut-être s'acheter... Non, c'est bon, c'est bien. Oui, ça chauffe. Cette toute petite lampe, cette pauvre petite lampe va nous illuminer. C'est comme la lampe dans nos âmes, dans notre cœur. Il a juste besoin d'un peu de temps et il va nous illuminer tous. Hein? Il va décider. On va... Bon, ça y est. Bon, leçon 156. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. L'idée d'aujourd'hui ne fait qu'énoncer la simple vérité qui rend la pensée de péché impossible. Elle promet qu'il n'y a pas de cause à la culpabilité et qu'étant sans cause, elle n'existe pas. Elle suit assurément de la pensée fondamentale si souvent mentionnée dans le texte, les idées ne quittent pas leur source. Si cela est vrai, comment peux-tu être à part de Dieu? Comment pourrais-tu parcourir le monde seul et séparé de ta source? Nous ne sommes pas inconséquents dans les pensées que nous présentons dans notre curriculum. La vérité doit être vraie d'un bout à l'autre, si elle est vraie. Elle ne peut pas se contredire elle-même, ni être incertaine en certaines parties et en certaines parties et sûre en d'autres. Tu ne peux pas parcourir le monde à part de Dieu, parce que tu ne pourrais pas être sans lui. Il est ce qu'est ta vie. Là où tu es, il est. Il y a une seule vie. Cette vie, tu la partages avec lui. Rien ne peut être à part de lui et vivre. Or, là où il est, il doit y avoir la sainteté aussi bien que la vie. Il n'est pas un de ses attributs qui ne soit partagé par tout ce qui vit. Ce qui vit est saint comme lui, parce que ce qui partage sa vie fait partie de la sainteté et ne pourrait pas plus être pécheur que le soleil ne pourrait choisir d'être de glace, la mer d'être à part de l'eau ou l'herbe de pousser avec des racines suspendues dans les airs. Il y a une lumière en toi qui ne peut mourir, dont la présence est si sainte que le monde est sanctifié à cause de toi. Toutes choses qui vivent t'apportent des dons et les déposent avec gratitude et joie à tes pieds. Le parfum des fleurs est le don qu'elles te font. Les vagues s'inclinent devant toi et les arbres étendent leurs bras pour t'abriter de la chaleur et jonchent le sol de leurs feuilles devant toi pour que tu marches dans la douceur, tandis que le vent s'apaise jusqu'à n'être qu'un murmure autour de ta sainte tête. La lumière en toi est ce que l'univers languit de contempler. Toute chose vivante s'arrête devant toi, car elle reconnaît celui qui marche avec toi. La lumière que tu portes est la leur. Ainsi voit-elle en toi leur sainteté et elle te salue en tant que sauveur et Dieu. Accepte leur révérence, car elle est due à la sainteté même qui marche avec toi, transformant dans sa douce lumière toute chose à sa ressemblance et sa pureté. Ainsi opère le salut. Quand tu cèdes le pas, la lumière en toi avance et enveloppe le monde. Elle n'annonce pas la fin du péché par le châtiment et la mort. Dans la légèreté et le rire, le péché disparaît, parce qu'on a vu la désuète absurdité. C'est une sotte pensée, un rêve idiot qui n'effraie pas, ridicule peut-être, mais quel est celui qui gaspillerait un instant en s'approchant de Dieu lui-même pour une lubie aussi insensée? Or, tu as gaspillé beaucoup, beaucoup d'années sur cette seule sotte pensée. Le passé a disparu avec tous ses fantasmes. Il ne t'emprisonne plus. L'approche de Dieu est proche. Et dans le petit intervalle de doute qui reste encore, tu perdras peut-être de vue ton compagnon, le confondant avec l'ancien rêve insensé qui est maintenant passé. Qui marche avec toi? Cette question devrait être posée 1000 fois par jour jusqu'à ce que la certitude ait mis fin au doute et établi la paix. Aujourd'hui, que cesse le doute. Dieu parle pour toi en répondant à ta question par ses paroles. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés, un avec moi. En tout cas, merci à tout le monde d'être venu pour notre première séance de cette rentrée.